Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Actuellement, nous nous concentrons sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, nous allons parler de la relation que Jésus entretenait avec Dieu. Admettons que Dieu existe, de nombreuses questions se présentent alors à nos esprits, dont celle-ci. Quel genre de relation pouvons-nous entretenir avec lui? Dieu est-il si lointain au point qu'il soit impossible de le connaître? Dieu est-il si majestueux qu'il ne daigne jamais s'impliquer dans nos vies? Dieu nous considère-t-il comme ses esclaves? Est-il si redoutable qui n'inspire que l'angoisse et l'obéissance peureuse? La dernière fois, nous avons commencé une nouvelle série d'émissions sur la personne de Jésus-Christ. Nous avons déjà appris que Dieu était pour Jésus un père et que Jésus se conduisait envers lui comme un bon fils. Nous avons aussi compris que par la grâce du Seigneur, nous pouvons devenir nous-mêmes enfants de Dieu. Jean-Marc est aujourd'hui parmi nous pour en discuter davantage.
Oui, bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler des qualités qui caractérisent cette relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ce sont d'ailleurs des qualités qui devraient caractériser notre propre relation avec Dieu. Ainsi, nous trouverons des réponses aux questions que vous venez de poser.
Pouvez-vous commencer par énumérer les qualités de cette relation que vous considérez de première importance?
Bien sûr. Voici donc celles que nous allons aborder. La confiance, la complicité et la soumission.
Pouvez-vous les expliquer davantage?
Un jour, Jésus a déclaré « Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un ».
Ces propos ont profondément choqué les Juifs qui l'écoutaient à l'époque.
Oui. Car il comprenait bien que Jésus affirmait sa propre divinité, un fait qu'il ne pouvait admettre. Encore de nos jours, ces paroles peuvent choquer certains qui ne parviennent pas à accepter que Dieu puisse s'être manifesté parfaitement homme. Mais aujourd'hui, je voudrais considérer dans cette phrase « Moi et le Père ne sommes qu'un » l'image d'une relation harmonieuse et confiante. Dieu le Père avait conçu un plan de salut pour les hommes, et il a envoyé Dieu le Fils pour le réaliser. D'ailleurs, Jésus déclare dans l'évangile de Jean « Le Père m'a envoyé » ou bien « J'accomplis les œuvres de mon Père ».
Oui, et nous savons que ces œuvres que Jésus est venu accomplir ne se limitaient pas aux miracles et aux actes d'amour et de compassion, car Jésus a toujours eu la croix en vue. Il savait à quelle mort il était destiné et dans quel but. Connaissant par avance les souffrances qu'il devait endurer, quelle attitude avait Jésus envers son Père qui, de toute évidence, l'avait envoyé à cette fin?
C'est là que nous pouvons être surpris de constater la complicité de Jésus envers son Père, ainsi que sa soumission et la confiance qu'il plaçait en lui. Jésus n'a pas accompli son œuvre sur terre à contre-cœur, ni en proie à un sentiment de révolte. Il ne se trouvait pas non plus dans la condition d'un esclave n'ayant aucun choix. Jésus a accepté d'accomplir tout ce que le Père attendait de lui. Volontairement, il s'est soumis à lui. Il avait confiance que cette démarche le conduisant vers une mort atroce était le plus grand bien de tous.
Mais quelle est la source d'une telle confiance et d'une telle soumission?
J'en vois deux. L'amour et un désir de glorifier son Père.
Commençons donc par l'amour.
Jésus a toujours eu l'absolue conviction que le Père l'aime. Lorsque l'on se sait aimer de quelqu'un, il est facile de lui faire confiance, d'acquiescer à ses désirs et de se soumettre à sa volonté. Lorsque l'on se sait aimer, on aime en retour. Et cet amour peut s'exprimer par l'acceptation de faire des sacrifices pour la personne aimée.
Mais Jean-Marc, vous avez aussi cité le désir de Jésus de glorifier son Père. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie?
Oui. Prenons une image qui nous aidera à mieux comprendre cette idée. Imaginons un groupe d'enfants jouant dans la rue ensemble. Souvent, les enfants, parce qu'ils sont admiratifs de leur père, aiment vanter leurs mérites aux autres. Alors, il n'est pas rare de les entendre discuter, les uns annonçant aux autres « Mon père est le plus fort », auxquels d'autres répondent « Non, non, c'est le mien », ou bien « Le mien est le plus riche et le plus doué ». Parfois, leurs propos prennent une tournure exagérée du style « Mon père a tué un lion de ses propres mains », ou « Mon père court plus vite qu'un léopard ». Ces enfants aiment leur père et ils expriment cet amour pour eux en vantant leurs mérites. À qui veut bien les entendre ?
Donc, de la même manière, Jésus voulait proclamer et prouver les qualités de son Père céleste.
C'est exact, Jan. Glorifier quelqu'un, c'est chercher à susciter l'admiration de tous pour la personne estimée. Par sa vie, par son enseignement, par son sacrifice, Jésus voulait faire connaître les perfections du caractère de Dieu et ses œuvres merveilleuses.
Jean-Marc, nous parlons depuis quelques minutes de cette relation que Jésus entretenait avec son Père. Toutefois, notre but est d'en apprendre des leçons pour parfaire notre propre relation avec Dieu, notre Père. Que pouvez-vous alors ajouter ?
Comme je l'ai déjà dit, les qualités si évidentes caractérisant la relation entretenue par Jésus avec son Père devraient être les nôtres.
Vous avez cité, me semble-t-il, la confiance, l'amour, l'harmonie, la soumission et la complicité.
Oui, mais notre point de départ doit être l'amour de Dieu pour nous. Quand nous aurons compris à quel point Dieu nous aime, nous aurons compris l'essentiel et le reste viendra naturellement. Citons à ce sujet 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés.
Oui, nous ne devons jamais sous-estimer l'amour de Dieu pour nous, car il a prouvé son amour envers nous par le prix payé à la croix pour régler le problème de nos péchés. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a livré son Fils, Jésus, à la mort sur la croix. Là, il a subi le châtiment que tous nous méritions.
C'est exact, Yann. Pour revenir à vos premières questions, si Dieu n'avait pas réglé le problème du péché des hommes, nous aurions toutes les bonnes raisons de le craindre, de trembler à la simple idée du jugement. Mais puisque par amour, il a écarté tout obstacle pour faire de nous ses enfants, toute peur de lui devrait disparaître. L'apôtre Jean lui-même l'affirme. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte.
Puisque donc nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, comment devons-nous nous comporter envers lui ?
Puisque Dieu a ainsi prouvé aux hommes qu'il est digne de confiance, alors nous devons lui faire confiance en toute situation. Puisque Dieu a prouvé aux hommes qu'il a leur intérêt à cœur, nous devons faire confiance à sa parole et nous soumettre à sa volonté. Son amour pour nous devrait éveiller notre amour pour lui. Une preuve de notre amour pour lui serait, une fois de plus, la soumission à ses attentes. Nous pouvons y ajouter le désir de faire sa volonté, de découvrir comment nous pouvons collaborer avec lui dans ses desseins pour le monde. Enfin, si nous l'aimons, si nous sommes vraiment en admiration devant tout ce qu'il est et tout ce qu'il accomplit, nous devons le glorifier, c'est-à-dire annoncer autour de nous combien il est merveilleux.
La gloire de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Voici le titre de notre nouvelle série de méditations bibliques. Ce titre s'inspire du premier chapitre de l'Évangile de Jean, verset 14, que voici.
Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité.
Et pour commencer nos études en vue de contempler la gloire de Christ dans l'évangile de Jean, je voudrais vous présenter un, Un invité qui revient sur le plateau, il s'appelle Yuva. Bonjour Yuva.
Merci Yann et bonjour à tous. Alors pour comprendre la gloire de Christ et l'origine de sa personne, nous devons revenir au début de l'évangile de Jean dont je vais lire les deux premiers versets. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu.
Ce sont des versets remarquables. Dites-nous, Yuva, qui est celui que l'on nomme la parole?
Nous avons déjà lu au verset 14 de ce chapitre que celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Dans le contexte de l'évangile, nous ne pouvons que comprendre que la parole dont il est question est Jésus-Christ.
Et pourtant, nous lisons que la parole était avec Dieu et qu'elle était elle-même Dieu. Cela nous amène-t-il à la conclusion que Jésus-Christ était tout aussi bien Dieu qu'homme?
L'un des buts de l'évangile de Jean est effectivement de nous mettre devant cette réalité. Jésus n'est pas simplement un homme, mais Dieu devenu homme. Et il s'agit là d'un mystère. Cela dépasse notre entendement qu'une même personne puisse être à la fois parfaitement homme et authentiquement Dieu. Toutefois, Jean nous met devant cette conclusion et il nous appelle à y croire. En effet, la véritable gloire de Christ consiste en ce mystère. Tout au long de cette série de méditations, alors que nous contemplons Christ, nous ne devons pas seulement y découvrir un homme remarquable, nous devons aussi apercevoir à travers lui la gloire de Dieu.
Merci Yuva. Revenons à celui dans les versets lus qui est nommé la parole. Déjà au commencement, il était présent. Mais pouvez-vous nous expliquer de quel commencement il s'agit?
Ce verset nous renvoie au verset 1 du premier chapitre du livre de la Genèse qui parle aussi du commencement. Nous comprenons ainsi qu'il s'agit du commencement de toute chose. Du moment où Dieu a entamé son œuvre de création, le début donc de l'univers et de tout ce qui existe.
Et la parole existait déjà?
C'est ce qu'affirme l'apôtre Jean, ce qui signifie que la parole est éternelle. Elle n'a pas connu de commencement, puisque depuis toujours, elle a existé.
C'est aussi une façon de souligner la divinité de Jésus, car seul Dieu peut être éternel.
Tout à fait. La parole n'a pas été créée. Et nous verrons même, lors d'une prochaine émission, que la parole a participé à l'œuvre de création. Toutes ces vérités affirment, comme vous le dites, la divinité de Jésus. Et puis un jour, cette parole divine et éternelle a choisi de devenir un homme pour vivre parmi nous. Voilà un aspect parmi d'autres de la gloire de Christ.
Nous remercions Jean-Marc et Yuva pour leur contribution enrichissante. Nous espérons aussi vous retrouver bientôt pour découvrir davantage l'enseignement de Jésus et apprendre à le connaître.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.